Bien, on va donc continuer. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir et la chance d'accueillir mon collègue et ami Christophe Lécuyer. Christophe Lécuyer est professeur à l'Université de Lyon 1, c'est ça, Christophe ? 1 ? Bien. Il est directeur d'une UMR CNRS à la même université. Il a une très grosse équipe et c'est un des meilleurs spécialistes mondiaux de la biogéochimie isotopique. Il va vous montrer, je vous en ai un peu parlé, ce que l'on peut faire avec cet outil et tout ce qu'on peut arriver à faire dire. Parce que le but de l'opération, à nous tous, on fait ça de manière très pluridisciplinaire, c'est d'essayer de les faire parler. Or, ils ne sont pas très nombreux et donc on essaie de leur faire dire le maximum de choses. Et Christophe les fait pas mal parler. C'est à toi.
Merci Michel. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi et un honneur d'être parmi vous. Et je tiens à remercier Michel Brunet, sans qui je ne serais pas là. Donc, comme Michel vient de vous l'expliquer, je ne suis pas paléontologue, je suis géochimiste et je travaille régulièrement avec de nombreux paléontologues et également avec Michel. Et si j'ai bien compris, dirigeant un laboratoire essentiellement de paléontologie, mes collègues paléontologues cherchent à faire parler les fossiles, comme vous avez déjà pu le constater régulièrement. Alors, ils cherchent aussi à les faire parler et à retrouver comme ça une histoire qui nous passionne tous et qui parle bien sûr de nos origines. Et alors, nos amis paléontologues, ils vont regarder, par exemple, la structure morpho-anatomique de ces fossiles, ils vont regarder comment ils sont assemblés dans l'espace, comment ces assemblages ont évolué au cours du temps. Et enfin, le défi que j'essaye de relever avec d'autres collègues en France et de par le monde, c'est également de lire ces fossiles, mais de détecter ces messages cryptés et qui sont un petit peu dans la chimie, voire la composition isotopique des fossiles. Alors si ce n'était pas une provocation d'utiliser le titre de mémoire isotopique, parce que hélas, parfois, on essaye de faire dire que certaines molécules, comme l'eau, ont une mémoire. En fait, l'eau a une mémoire, mais dans les isotopes de ses atomes. Et je vais essayer de vous montrer comment on peut essayer de lire les messages cryptés dans ces fossiles. Alors, l'exercice, pour moi, le plus difficile pour commencer, ça va être d'essayer de vous expliquer ce que c'est qu'un fractionnement isotopique. Et je pense que ce n'est pas très facile. C'est pour ça que je vais juste utiliser une craie, finalement, et pas d'autre chose. Alors, un fractionnement isotopique, le mot fractionnement est un peu déjà trop savant dès le départ, finalement. Il vaut mieux utiliser le mot de partage. Beaucoup d'éléments dans la nature ont des isotopes naturels. Certains sont dits stables, c'est-à-dire qu'ils ne subissent pas de désintégration radioactive. C'est juste une différence de neutrons dans les noyaux qui permettent de distinguer ces atomes. Nous en respirons régulièrement, puisque par exemple l'azote a deux isotopes, 14 et 15. Le 14 étant de loin le plus abondant devant le 15. C'est en général le cas de la plupart des isotopes. Ce sont ceux de masse le plus élevé, les plus lourds, qui sont les plus rares. C'est le cas aussi de l'oxygène, pour lesquels on a trois isotopes, 18, 17 et 16. On va s'intéresser aux deux extrêmes, car c'est pour nous plus facile de mesurer deux atomes de masse particulièrement différentes. C'est surtout de l'oxygène 16 que nous respirons. Et la plupart des êtres vivants, depuis plus de 500 millions d'années, construisent des squelettes minéralisés, que ce soit des exosquelettes, comme les coquilles, des mollusques, ou que ce soit les squelettes internes des vertébrés, comme les os et les dents. Donc pour essayer quand même de ne pas être trop loin de ce que racontait Michel aujourd'hui, même si on va essayer vers la fin de mon exposé de s'en approcher, Mais je vais surtout vous parler des isotopes de l'oxygène qui se partagent dans la nature entre notre squelette, dents et os, qui sont constitués d'un minéral qu'on appelle l'hydroxyapatite, dont la formule est la suivante. Il y a un petit peu de fluor aussi. Et l'oxygène de cette molécule, PO4, imaginez, là je vais quand même vous en faire une représentation parce que je dessine très mal en fait. Donc je ne vais pas être prétentieux. Voilà une molécule, imaginez donc un atome de phosphore avec quatre atomes d'oxygène qui sont au sommet d'un tétraèdre, et le phosphore est au centre de ce tétraèdre. Donc c'est une molécule qui est compacte, et l'oxygène de ce phosphate est hérité, en fait, chez à peu près tous les animaux, de l'eau qui est dérivée du milieu de vie de ces animaux. Dans le cas des êtres humains comme nous, l'oxygène qui va participer à constituer la molécule de phosphate vient de l'eau qui est dans notre corps, lui-même dérivé pour l'essentiel de l'eau que nous buvons ou de l'eau des aliments que nous ingérons. Alors, de façon générale, les deux isotopes de cet atome vont se partager entre deux molécules qui sont le phosphate et l'eau. Alors, je voudrais vous écrire les choses de façon beaucoup plus générale, brièvement. Imaginons deux molécules. La première, ça peut être le phosphate, qui va échanger avec de l'eau. On va l'appeler A, et je vais noter par moins la présence d'un isotope, celui de la masse la plus faible, qui va échanger avec une molécule B, qui, lui, contient l'isotope de masse le plus élevé. Et on peut estimer, comme pour une réaction chimique, que la réaction isotopique peut être thermodynamiquement à l'équilibre. Alors nous allons écrire la réaction d'échange, que la molécule A va acquérir l'isotope le plus lourd et B la plus légère. Comme pour une réaction chimique à l'équilibre, nous avons le droit d'appliquer la loi d'action de masse et d'écrire une constante d'équilibre, les chimistes l'appellent souvent K. C'est tout simplement le produit des deux produits de la réaction que divise le produit des réactifs en réarrangeant les termes. Je vais avoir A plus sur A moins. La même chose pour la molécule B. Les géochimistes appellent ce rapport le rapport isotopique dans la molécule A et celui-ci dans la molécule B. C'est ce que nous appelons alpha, le coefficient de fractionnement isotopique. Et comme toute constante d'équilibre en chimie, cette constante est définie pour toute température et toute pression. À la surface de la Terre, la pression... Les variations de pression sont suffisamment faibles pour que cette variable puisse être ignorée. Par contre, les variations de température sont relativement importantes et le fractionnement isotopique naturel est particulièrement sensible à la variable température. Donc, quelle mémoire isotopique des fossiles ? C'est la température. Et pour, par exemple, tous les animaux que nous appelons couramment à sang froid, comme de nombreux reptiles, ou les poissons, ou la plupart des invertébrés, si nous pouvons remonter à cette variable, la température, nous remonterons à la température du milieu aérien ou aquatique où vivaient ces animaux. C'est une façon de reconstituer les climats anciens de la Terre. Il y a encore, encore 20 ans, on arrivait à reconstituer les climats pour quelques centaines de milliers d'années, puis quelques millions d'années. Maintenant, je vais vous montrer qu'on arrive à le reconstituer jusqu'à presque 500 millions d'années. l'histoire des variations de la température de l'océan et de ses implications sur l'évolution du vivant. Alors, pour finir de vous embêter avec ces formules, qui ne sont pas finalement très complexes, les géochimistes ont d'abord été obligés de devenir des linguistes, c'est-à-dire à parler la même langue. Et donc, pour parler la même langue, ces rapports isotopiques, quand vous mesurez le rapport isotopique, ça, nous savons le faire avec des spectromètres de masse isotopique, le rapport isotopique dans une molécule, A ou B, c'est-à-dire ici, je peux reprendre le phosphate, PO4, de nos dents ou de nos os, et l'eau que nous buvons, eh bien, on normalise toutes ces mesures à un référentiel international. Pour l'oxygène, c'est la moyenne de la composition de l'océan mondial. Et c'est la deuxième notation importante que vous devez connaître, et après je vais essayer de vous montrer cette méthode, ce qu'elle nous permet de découvrir sur l'histoire de notre planète, de son climat et de son impact sur le vivant. C'est la notation delta, et par convention, on présente toujours l'isotope le plus lourd au numérateur. Et c'est tout simplement la composition, le rapport O18 sur O16 qui est normalisé. Alors par exemple, ça va être la molécule de PO4 par rapport à la composition de notre référentiel moins 1 et le tout que multiplie 1000. Ça, c'est la notation delta. Ça nous permet de comparer les compositions isotopiques des différents matériaux. Et ces compositions isotopiques varient en fonction de la température. Et donc, vous comprenez que nous avons potentiellement deux informations à résoudre. C'est que la composition isotopique d'un matériau va dépendre, par exemple, pour nos dents ou nos os, de la composition de l'eau qui est utilisée pour fabriquer ce matériau, c'est-à-dire c'est la molécule d'eau qui va échanger ses isotopes avec le phosphate, et la température à laquelle les échanges isotopiques se sont faits. Donc on peut avoir potentiellement deux informations. C'est la température du milieu. Nous allons voir ensemble que dans certains cas, nous allons peut-être pouvoir estimer la température corporelle de certains animaux. Car sommes-nous bien sûrs, dans l'histoire de vivant, une image un petit peu, hélas, une idée un petit peu reçue, c'est qu'un monde primitif était constitué essentiellement d'animaux lourds, maladroits, à sang-froid, des grands reptiles, les dinosaures. Et en fait, un succès du vivant, ça a été l'acquisition de ce qu'on appelle l'endothermie, c'est-à-dire la capacité d'un être vivant à produire sa propre source de chaleur et à maintenir constante la température de son corps. Mais est-on sûr de ça? N'est-ce pas vraiment le fond de la recherche et je dirais peut-être même aussi l'idée forte du Collège de France, c'est-à-dire n'admettre aucune vérité sans remettre en question certaines hypothèses, certains a priori. Et si l'endothermie avait été inventée en même temps que ce qu'on appelle l'ectothermie, c'est-à-dire un animal, en fait, a une température corporelle qui dépend de son milieu, et voire peut-être chez les vertébrés, pourquoi pas avant. Alors, on a besoin aussi de savoir si... Je vous parlais de mémoire. Mais est-ce que la composition isotopique d'un os ou d'une dent, vieux de plusieurs millions d'années, est-ce que cette mémoire peut être préservée si longtemps? Qu'en savons-nous? Il y a la première question, c'est quelle mémoire? On commence à avoir une idée, la composition de ce que les animaux boivent ou mangent. La température du milieu où ils vivent, ou la température de leur propre corps. Mais cette mémoire est-elle fragile? Alors pour ça, il est important de faire des expériences en laboratoire. Alors, je vais essayer de vous montrer les expériences qui sont faites en laboratoire, où on prend un matériel comme dents ou os, et on l'expose dans des réacteurs ou des incubateurs, si vous préférez. Ah, la température est connue. Et pour voir si des échanges isotopiques ont lieu, eh bien, on utilise une eau, on prend un sol naturel, et si vous voulez, ce sol, les matériaux sont naturels, mais on triche juste sur leur composition isotopique, on l'utilise très contrasté. Alors, on enrichit très fortement l'eau en oxygène 18, justement dans l'isotope le plus rare. On fait la même chose pour le carbone. Et on se rend compte, par exemple, ça, ce sont des temps de réaction, évidemment, en laboratoire qui sont très lents par rapport à la nature. Mais vous voyez que si on prend l'os, eh bien, dès 10 semaines de réaction, quand on utilise une eau dont le delta O18 est de plus de 170, c'est-à-dire très enrichie en oxygène 18, eh bien, on arrive rapidement à avoir un début de changement de la composition isotopique du phosphate de l'os, alors qu'on ne l'observe pas pour de l'émail dentaire. Je crois que j'ai mon pointeur laser qui est un peu fatigué, ici. La raison est simple, c'est l'os est un matériau qui est peu dense, qui est très poreux, et en fait, les cristaux d'apatite, dont je vous ai donné la formule tout à l'heure, qui sont entourés de fibres de collagène, la matière organique, elle, va se décomposer très rapidement quand le fossile est enfoui dans le sol. Et en fait, l'os va présenter au fluide qui circule dans le sol une très grande porosité, ce qui va favoriser les échanges isotopiques. L'émail dentaire, vous savez, c'est bien connu quand même, ce matériau très résistant nous permet de déchirer, de couper, de broyer des aliments. C'est un tissu très fortement minéralisé et qui est très difficile à altérer. Alors évidemment, il y a une limite à la méthode, c'est que rien ne résiste à l'attaque de certaines bactéries, y compris sur l'émail dentaire. Donc il faudra être très prudent, parce que certains fossiles auront pu perdre en partie leur composition isotopique originelle, ou même celle-ci aura pu complètement disparaître. Regardez par exemple, comme il est très difficile pour des matériaux anciens d'exploiter les compositions isotopiques du carbone, c'est même pour ça que je vous n'en parlerai pas aujourd'hui, avec un sol dont le delta C13 est enrichi, vous voyez que très rapidement, que ce soit le carbone, parce qu'en fait dans les apatites il y a un petit peu de carbonate, eh bien, le carbone de ces molécules de carbonate en substitution de l'hydroxyapatite ont des compositions isotopiques qui peuvent très vite être modifiées à cause d'échanges dans le sol où les fossiles vont stocker et ensuite être stockés ensuite dans les sédiments. Donc, il faut étudier les comportements des systèmes isotopiques. Des années de recherche nous ont permis de comprendre, de déduire que les isotopes de l'oxygène de la molécule PO4, de l'hydroxyapatite, de l'émail dentaire, c'était un matériau particulièrement résistant. L'émail dentaire, donc dents de vertébrés, ça sera des poissons, ça peut être des reptiles, ça peut être pas mal de vertébrés. Dans d'autres cas, nous verrons que d'autres animaux sont capables de synthétiser, de biominéraliser des tissus également très denses et très résistants. Maintenant, c'est bien gentil cette théorie, mais il nous faut des équations qui nous permettent de relier, des équations simples, qui nous permettent à partir de la mesure isotopique du fossile de remonter à la température du milieu. Pour le milieu aquatique et le milieu marin, Il y a une tâche qui est facilitée, c'est l'océan est un réservoir énorme. Vous le savez tous, il recouvre 70% de la surface du globe. La profondeur moyenne des océans est de 3700 mètres. Si ça peut vous donner une idée, la masse des océans, c'est 1,4 10 puissance 21 kg. C'est énorme. La composition isotopique des océans est très difficile à modifier. Elle est par définition, puisque c'est notre référence, elle est de zéro. Donc on va pouvoir considérer que pour la majeure partie de l'histoire du monde et de notre planète, la composition des océans est constante. Donc il faut qu'on trouve une relation entre température et composition isotopique. La première équation a été proposée pour des poissons par une équipe israélienne. Alors, je vous le présente comme ça dans un premier temps parce que vous pouvez lire les régions du monde d'où viennent les poissons. Alors, ce sont des poissons actuels. Ces chercheurs israéliens, c'est l'équipe, c'était... Alors, maintenant, je crois que Yeshu Koloni est à la retraite, mais il a publié ça en 1983 à l'Université de Jérusalem. Et ils ont pêché des poissons dans différents endroits, y compris, vous voyez, le lac Baïkal, ou différents poissons de mer ou d'eau douce, pour des régions où on connaît à peu près la température de l'eau où vivent ces animaux. La température est reportée en ordonnée, ici, en fonction de la différence de composition isotopique entre le phosphate des dents ou des os de ces poissons et la composition de l'eau où ils vivent. Dans le domaine des basses températures, la thermodynamique prédit que les points devraient s'aligner. C'est presque vrai. Vous voyez ici qu'il y a une relation linéaire qui est loin d'être parfaite, il y a pas mal d'incertitudes, mais qui a permis de proposer une première équation par simple régression linéaire. On a une droite d'équation qui relie la température à la composition du phosphate et de l'eau. Alors, cette équation a été vérifiée par différents travaux. Et là, des poissons ont été utilisés. D'autres organismes synthétisent un squelette phosphaté. Vous les connaissez peut-être moins. Ce sont des invertébrés marins, les lingules. Alors là, c'est encore, la nature est très trompeuse. On a l'impression que ce sont un peu des bivalves comme des moules, mais c'est faux, ce sont des brachiopodes inarticulés. Alors, quelle est la différence ? Une différence importante, c'est l'axe de symétrie, il est perpendiculaire aux valves chez les brachiopodes, alors que c'est dans le plan des valves chez les bivalves. Et ce qui caractérise aussi les brachiopodes, c'est l'existence d'un lophophore. Alors, ces brachiopodes inarticulés sont constitués d'une coquille ici qui est en partie constituée d'apatite et aussi de chitine. Et ces organismes vivants existent sur Terre depuis le début du Cambrien en ayant subi très peu d'évolution, aussi bien anatomique que physiologique. Vous avez en bas quelques fossiles, vous voyez les valves de lingules, ici d'âge ordovicien, donc à peu près 450 millions d'années. Ces lingules, on en trouve toujours à la surface de la Terre, dans l'océan Atlantique, dans l'océan Pacifique. Elles tolèrent des eaux de température différentes. Et voilà un des travaux qui a été, il y a quelques années, réalisé à Lyon, où là aussi, on fait une droite de calibration pour ces lingules. C'est-à-dire, vous voyez, on a été dans des endroits très désagréables pour aller les pêcher, comme le Costa Rica, la Floride, Hawaï, la Nouvelle-Calédonie, le Japon. Non, la plupart des échantillons nous ont été envoyés. On n'a pas été se déplacer pour ça. Mais ces spécimens ont été pêchés à proximité de stations océanographiques On connaît très bien la température moyenne de l'eau pendant les quelques années de durée de vie de ces spécimens. Et on connaît aussi la composition de l'eau de mer où ils vivent. Oh, c'est toujours très proche de zéro, ça ne bouge quasiment pas. Et vous voyez, comme on est dans le milieu marin, on contraint très bien la valeur, la composition de l'eau. Et là, on a des points qui s'alignent plutôt bien. Et on a une équation qui est, aux incertitudes près, identique à celle qui a été proposée pour les poissons par l'équipe israélienne. Alors, on va faire la même chose, par exemple, avec d'autres poissons, mais des sélaciens, requins et raies. Voilà les spécimens qui ont été pêchés. Avouez que c'est un petit peu plus dangereux et délicat que des lingules pour aller prélever les dents à ces animaux. On est obligé de leur demander beaucoup plus poliment qu'à une lingule pour prélever sa coquille. Voilà différents requins d'Atlantique et de Méditerranée. Une très belle raie. À ce moment-là, on analyse les râpes des raies. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Là aussi, dans le même type de diagramme, des points qui s'alignent, qui nous permettent d'obtenir une droite, et on peut encore voir que l'équation est similaire. Donc on va pouvoir utiliser cette équation à des espèces disparues, car visiblement, le fractionnement isotopique ne dépend pas de l'espèce étudiée. Et ça, c'est très important, parce que dans le registre fossile, la plupart des espèces n'existent plus maintenant sur Terre. Donc il fallait prendre la précaution, vérifier si on pouvait avoir une équation, entre guillemets, universelle, applicable à des espèces disparues. Alors maintenant, il est temps que je vous montre des exemples. Nous allons voir ensemble comment on peut reconstituer les variations de la température des eaux marines de surface depuis 150 millions d'années jusqu'à la limite Crétacé-Tertiaire, quand les dinosaures ont disparu, il y a 65 millions d'années. À la fin du Jurassique, il y a 150 millions d'années, notre planète a une géographie très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, avec encore une très forte mémoire de la Pangée, où tous les continents étaient rassemblés. L'Atlantique commence seulement à s'ouvrir dans sa partie centrale. Et en fait, l'essentiel de l'Europe de l'Ouest, où nous vivons, est une gigantesque mer peu profonde, un peu comme l'équivalent de ce qu'on a à l'heure actuelle, la mer du Nord, la Manche. Vous avez pas plus de 200-250 mètres de bathymétrie, dans le meilleur des cas. Donc imaginez des eaux tropicales sur des centaines de milliers, de millions de kilomètres carrés. Alors bien sûr, ça devait être assez sympathique. On peut imaginer des îles tropicales, des eaux un peu profondes. Mais surtout, c'est en fait la partie la plus occidentale de l'océan Tétisien. Ces eaux peu profondes, qui sont bien brassées par les vents, qui sont riches en nourriture, on dit nutriments, eh bien, elles hébergent une faune assez importante, comme des poissons, des requins, mais également, sur le fond, vivent d'autres brachiopodes. Ceux-là, ils sont articulés avec des valves en calcite. Donc voilà, ici, c'est un exemple de Griffus vitreus actuel de Méditerranée. Donc, ce qui distingue des lingules, c'est l'existence d'un crochet, c'est pour ça qu'on les appelle des brachiopodes articulés, et la composition n'est pas phosphatée, mais en calcite, c'est-à-dire CaCO3. Et ces invertébrés vivent accrochés sur le substrat, sur le fond. on trouve énormément de fossiles, de dents, de requins de ce type-là, dont la partie ici supérieure est très fortement minéralisée et c'est quasiment la structure de l'émail de nos dents modernes. Alors ce requin, en voici une représentation en bas, qui vivait dans les eaux marines peu profondes du Jurassique et du Crétacé. Son nom, c'est Asteracanthus. Et on en a probablement des équivalents à l'heure actuelle en mer Rouge, par exemple, comme ici. Donc des requins qui vivent en eau peu profonde. Et d'après les paléontologues, spécialistes des requins anciens, ces poissons vivaient dans les eaux de surface. Ça mérite quand même de voir si, avec notre méthode isotopique, on est capable de voir ça. Alors, on va s'y prendre comment ? Eh bien, là, on va s'associer pas uniquement à des paléontologues, mais à des sédimentologues, capables de nous reconstituer en France, au niveau du bassin de Paris, eh bien, tout un environnement aquatique, depuis la plage jusqu'au large, où on peut avoir 100, 150 mètres, 200 mètres de fond, avec parfois ici un début de barrière récifale. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé dans les couches de même âge les compositions isotopiques des dents de requins qu'on retrouve avec des coquilles de ces brachiopodes qui vivent sur le fond. Alors, quand on mesure les coquilles de brachiopodes sur la même isochrone, qui ont le même âge, on s'aperçoit que, quand on les convertit en température, eh bien, que la température diminue depuis 23 plus ou moins 6 degrés jusqu'à 14 plus ou moins degrés. Elle diminue progressivement. C'est tout à fait logique, puisque la température de l'eau diminue avec la profondeur. Et quand on analyse les compositions des dents de requin, qu'on les traduit en température, eh bien on s'aperçoit que la température enregistrée est constante quel que soit l'endroit où on a retrouvé le requin dans le bassin. 24 plus ou moins 4, 24 plus ou moins 3, 24 plus ou moins 2, 25 plus ou moins 1, 23 plus ou moins 3 degrés. Et comme ces températures sont identiques à celles des brachiopodes qui vivent près de la plage, dans seulement quelques mètres d'eau, c'est quasiment la preuve irréfutable que ces poissons, quelle que soit la bathymétrie, quelle que soit la profondeur du milieu, ils vivaient dans les eaux de surface et ils ne les quittaient pas. Donc c'est intéressant parce que on ne va pas les variations de leur composition isotopique, ça ne va pas enregistrer des variations de la morphologie du bassin, d'un milieu qu'ils pourraient exploiter quand ils s'approfondissent, mais bien de la température des eaux marines de surface. Il est également important de prendre cette précaution. Que peut-on ? Eh bien, par exemple, pour le Jurassique, je vous montre les données comme les scientifiques les reportent dans un diagramme de composition de delta O18 au cours du temps. On a des points avec une certaine variabilité pour le Jurassique supérieur. La même chose pour le Crétacé. On peut faire passer une courbe moyenne. Vous voyez qu'il y a des variations. Et on peut traduire ça en température. Qu'est-ce qu'on obtient sur depuis 170 millions d'années jusqu'à 65 millions d'années, c'est le transparent farceur. Eh bien, vous voyez qu'on a eu des variations de la température des eaux marines de surface au cours du temps. Et alors, en fait, il y a des choses qui sont assez intéressantes là-dedans, quand on regarde plus dans le détail. La bande que j'ai reportée en pointillé ici, c'est la gamme de température des eaux marines tropicales actuelles. Vous voyez que pour la plupart de l'histoire du Crétacé et de la fin du Jurassique, la température des eaux tropicales était identique à maintenant. Donc il faut arrêter d'imaginer un monde du Mésozoïque avec des températures tropicales ou équatoriales bien supérieures à maintenant. C'est faux, c'était très peu différent. Ce qui est pratiquement sûr, c'est que dans le passé, pour ces périodes, ces ceintures tropicales, les températures plus élevées des eaux marines s'étendaient jusqu'à des plus hautes latitudes, d'où une température moyenne à la surface de la Terre plus élevée qu'aujourd'hui. Actuellement, la température moyenne à la surface du globe est de 15 degrés. Pour le Crétacé, c'était probablement 7 à 8 degrés supérieur à l'actuel, en moyenne, parce que sous nos latitudes, il faisait plus chaud. Mais sous les tropiques ou sous l'équateur, c'était à peu près comparable, sauf pour deux périodes. Ici, au Calovien, il y a 165 millions d'années, et à la limite, Cénomanien-Turonien, où probablement, même sous les tropiques, les températures étaient plus élevées que maintenant. Et peut-être ça, peut-être que c'est une cause, mais là on n'en est pas sûr, il faut se méfier de ce genre de raccourci, c'est peut-être lié à des effets de serre, de gaz à effet de serre comme le CO2, plus important ces époques-là que maintenant, mais ça, ce n'est pas une certitude. Par contre, vous pouvez remarquer deux périodes où les températures ont pu être étonnamment faibles. Comme au début du Crétacé, mais aussi au Jurassique, à l'Oxfordien, où on calcule des températures tropicales jusqu'à des températures qui sont 20 degrés ou moins, ce qui pose un problème quand on discute avec les gens qui font de la paléoécologie ou de la paléontologie, c'est que dans ces mêmes environnements, on trouve des coraux récifaux, des crocodiles, tout un cortège faunique adapté à des températures élevées, à un monde tropical comme on le connaît actuellement. Alors là, on fait face à un problème. Alors ce problème, en fait, c'est qu'on fait ici les températures. N'oubliez pas qu'elles sont calculées en supposant que le delta 18 de l'eau est identique à aujourd'hui. Alors il y a quand même une façon de changer le delta 18 des océans. Je vais récupérer l'éponge. Ce sont les calottes glaciaires. Les calottes glaciaires, aujourd'hui sur Terre, c'est de l'eau douce, stockée sous forme de glace, à l'Antarctique et au Groenland. On peut dire qu'avec ça, on a plus de 95% du stock. Hein. Donc, en premier ordre, ça suffit. On va faire un calcul très simple. Il y a juste deux, trois petites choses à savoir. La masse des océans. C'est 1,4 10 puissance 21 kg. La masse de cette eau douce stockée sous forme de glace sur les continents. Antarctique plus Groenland. C'est 3,5 10 puissance 19 kg. Les océans, ils ont un delta O18 de 0. Mais par contre, la glace qui est stockée sur les continents, qui est initialement de la neige, et qui a été, à partir de masses d'air humide dans l'atmosphère, précipitée à très basse température, le delta O18 est très négatif. Il est de moins 40. Si nous avons un réchauffement climatique et que toute cette glace fond avec un delta 18 de moins 40 et mélanger un océan dont le delta 18 est de 0, vous pouvez ici, 10 puissance 19, 10 puissance 21, on a deux ordres de grandeur, c'est 100 fois plus petit, sauf qu'ici on a 3,5, c'est à peu près 2 fois 1,4, un petit peu plus. Ça veut dire que c'est à peu près 1 cinquantième. 1 cinquantième de moins 40 mélangé à 0, ça fait à peu près 4 cinquièmes. Ça fait moins 0,8. Et voilà, ça c'est un effet d'églaciation ou de fonte des glaces sur le delta 18 de l'océan. Si vous avez la fonte des calottes glaciaires, le delta 18 de l'océan va passer de 0 à moins 0,8 ou retenez tout simplement moins 1. Et à ce moment-là, dans nos équations, eh bien, les températures que nous calculons sont différentes. Et imaginez au contraire que à la fin du Jurassique, ici, il y a eu un début de glaciation. C'est l'inverse qui se produit. On va stocker de la glace sur les continents du Jurassique, au pôle. On va soustraire de l'isotope léger à l'océan pour le mettre dans les glaces. Et le delta 18 de l'océan va augmenter. Ça veut dire qu'on se trompe à ce moment-là. Sur les températures ici, elles ne sont pas de 20 degrés, mais peut-être de 23 ou 24 degrés. Alors, si on a... Comment le tester, ça ? Comment le tester ? Si on a stockage d'eau sur les continents, le niveau de la mer, il va baisser, d'accord ? OK ? Si, au départ, on considère, en général, au Jurassique, au Calovien, ici, qu'il n'y a pas de calotte glaciaire. On va prendre un exercice simple. Faisons l'hypothèse qu'on va faire une calotte glaciaire de la même taille qu'aujourd'hui, 3,5 10 puissance 19 kg. C'est-à-dire 1 cinquantième de la masse des océans. La profondeur moyenne des océans est de 3700 mètres. On va augmenter le niveau de la mer de à peu près 3700 que divise 100, 37 que multiplie 2, presque 80 mètres. Comment le voir ? Reprenons nos brachiopodes et nos requins. On a vu ensemble que les brachiopodes, ils vivent sur le fond. Ils enregistrent des températures de plus en plus faibles quand on s'éloigne du bord, parce que le milieu s'approfondit. Donc ces températures qui diminuent sont également synonymes d'un milieu plus profond, d'une bathymétrie qui augmente. Donc nos requins, eux, s'ils nous donnent la température de surface, la différence de composition entre les poissons et les brachiopodes correspond à une différence de température qui est proportionnelle à la différence de profondeur dans la colonne d'eau. C'est pour ça que si on reproduit ici sur cette figure la différence de composition entre le brachiopode et le poisson, les différences de delta O18, quand cette différence augmente, c'est que la différence de température augmente entre la surface et la profondeur, donc la bathymétrie augmente. Donc si vous reportez ces valeurs en fonction juste de la valeur du brachiopode, qui lui vous donne l'approfondissement du milieu, eh bien les points s'alignent sur une droite dont en théorie la pente est à peu près de 1. Et c'est ce qu'on observe au Calovien. Ce sont les 5 carrés noirs qui s'alignent sur une droite Et quand on fait le même exercice à l'oxfordien, pendant cette période où on suspecte qu'il y a un refroidissement ou un début de calotte glaciaire, eh bien, on mesure des points qui également s'alignent sur une droite, mais cette droite est décalée vers la droite, bien oui, parce que les brachiopodes, ils enregistrent une température de l'eau qui est plus froide, donc tous les points se déplacent, et surtout la différence de température entre les poissons et les brachiopodes, eh bien, elle est deux fois plus faible, c'est-à-dire que la profondeur est deux fois plus faible. Donc, effectivement, ce que nos faunes enregistrent, c'est une diminution de la bathymétrie, de la profondeur du milieu, et une différence de température de 13 degrés sous les tropiques correspond à une différence de température d'à peu près 13 degrés, enfin, de 13 degrés correspond à une différence de profondeur de 200 mètres, comme on a dans les océans actuels sous les tropiques. Et ce qu'on observe à l'oxfordien, c'est que la température, la profondeur maximale enregistrée est de 100 mètres. Donc on a eu ici, là, entre le calovien et l'oxfordien, une différence de bathymétrie, une baisse du niveau de la mer de 100 mètres qui peut être reliée à un début de glaciation avec la mise en place d'une calotte glaciaire dont la taille est au moins égale à celle que nous connaissons actuellement. Donc il n'y a pas que le quaternaire ou le tertiaire qui sont des périodes qui ont connu des glaciations, mais déjà au Mésozoïque, notre planète a connu des glaciations. Alors, si vous le voulez bien, nous allons remonter encore plus loin dans le temps. Il y a 450 millions d'années, alors là, la géographie de notre planète, on ne retrouve plus rien de ce que nous connaissons. D'accord ? Il m'arrive encore d'être obligé de me concentrer en regardant cette carte pour deviner où est l'Europe, ou ce qu'il y en avait à l'époque. En fait, on considère deux continents, le Laurentia, c'est-à-dire le Canada actuel, le bouclier canadien qui était émergé, et le Gondwana, où en fait on avait l'équivalent Afrique, Amérique du Sud, Antarctique, regroupés. Vous voyez que l'Antarctique était sous l'équateur. On avait un peu quand même la tête à l'envers à cette époque-là. Il y a 450 millions d'années, il n'y a pas que les continents qui étaient en désordre par rapport à maintenant. Imaginez aussi un monde assez désagréable à habiter. Une atmosphère très pauvre en oxygène, très riche en CO2. Pas de plantes sur les continents. Il faut attendre la fin de l'Ordovicien pour avoir les premiers vrais poissons. Par contre, on a des brachiopodes, des bivalves, et puis on a des fossiles très nombreux, je crois que j'ai oublié par contre de vous en montrer une représentation, qu'on appelle des conodontes. Ce sont des tout petits éléments phosphatés en hydroxyapatite. Tiens, tiens donc, ça nous intéresse. Et ce sont en fait les restes, les appareils masticatoires de petits, on va dire, d'ancêtres de petits poissons, des procordés. Imaginez un petit peu une lamproie. Donc ces petits ancêtres de poissons qui vivaient dans l'océan il y a 450 millions d'années et qu'on retrouve dans les sédiments. C'est tout petit, mais grâce au perfectionnement technologique, on est capable maintenant d'en analyser un seul. Ça mesure, la plupart, ils font pas plus de 2 mm. Et avec des collègues australiens et canadiens, nous avons mesuré leur composition au cours de l'Ordovicien dans des sédiments qu'on retrouve à l'heure actuelle au Canada et en Australie. Donc sous l'équateur ou les tropiques, mais dans deux régions bien distinctes. Là, il faut que vous vous rendiez compte que c'est la première fois qu'on vraiment on peut proposer une courbe d'évolution de la température des océans pour une période aussi ancienne de l'histoire de la Terre. Qu'est-ce qu'on observe ? Regardez, s'il vous plaît, d'abord la partie droite de ce diagramme. C'est il y a 480 millions d'années, la température des océans était plus chaude que maintenant. 40, 45 degrés. Alors, de telles températures ne sont pas tolérées par la plupart des organismes métazoaires. Et puis, cette température des eaux marines de surface va diminuer progressivement. Et c'est il y a 465 millions d'années qu'on va enfin avoir des températures des eaux marines de surface sous les tropiques comparables à l'actuelle. Alors, on pense, mais attention, là, ce n'est que des spéculations pour le moment. Une possibilité, c'est qu'une bonne partie du CO2 dans l'atmosphère ordovicienne a été piégée sous forme de carbonate dans des régions de plateformes marines. Il y a eu peut-être une coïncidence de facteurs. Si vous avez les continents qui sont placés à un moment donné avec la dérive des continents sous des régions tropicales humides, eh bien, l'altération des basaltes pompe énormément de CO2 de l'atmosphère et le calcium, les ions bicarbonate, quand on arrive à ce moment-là dans les eaux marines de plateforme, on peut avoir des précipitations de carbonate. Donc une partie du CO2 de l'atmosphère a été probablement piégée dans le système marin. Et là, je tiens à vous dire que ce n'est qu'une observation, c'est-à-dire c'est en rien une démonstration. Quand vous observez deux phénomènes indépendants qui ont l'air d'être synchrones, ça ne veut pas dire qu'il y a une relation de cause à effet. Il n'y a aucune certitude. Mais c'est tout simplement une source de réflexion. C'est la première fois, ça c'est un résultat qui a été publié dans la revue Science l'année dernière, c'est la première fois qu'on observe ça, c'est-à-dire que c'est quand même incroyable que la grande explosion de la biodiversité marine à l'ordovicien, on va pour la première fois de l'histoire de la Terre mettre en place la biodiversité moderne. Et ça se produit quand ? Il y a 465 millions d'années. En même temps que la température des océans de surface prend une acquiert une température raisonnable. Oui, parce qu'une température de 30 degrés permet à ce moment-là à de nombreux métazoaires d'animaux d'élaborer un métabolisme plus sophistiqué, des fonctions plus sophistiquées, parce qu'au-dessus de 35 degrés, il y a par exemple certaines fonctions enzymatiques qui ne fonctionnent pas. Enfin, il y a des choses qui n'opèrent pas, quoi. Mais là, il faut demander à des spécialistes. Mais regardez, il y a une augmentation progressive de la biodiversité dans le domaine pélagique qui est corrélée à une diminution de la température des océans, mais dès que les océans acquièrent une température raisonnable et moderne, équivalente, c'est aussi tout le domaine benthique qui va, en termes de biodiversité, exploser, c'est vraiment le terme utilisé, explosion de la biodiversité marine. C'est une observation, ce n'est en aucun cas la preuve que le changement climatique a pour conséquence, on peut simplement l'observer et le suggérer comme une hypothèse de travail. Alors, si vous m'accordez encore un petit peu de temps, maintenant, je voudrais vous montrer qu'avec cette méthode, ce n'est pas uniquement la température de l'eau, qu'on peut s'amuser à tester, mais la température corporelle d'organismes disparus. Alors vous savez qu'au Jurassique et au Crétacé, sur les continents, il y avait les fameux dinosaures. Mais dans l'eau, il n'y avait pas quand même des monstres, entre guillemets, hein, assez étonnants. De nombreux reptiles marins, dont la taille pouvait atteindre jusqu'à 10 mètres, comme le plésiosaure, l'ichthyosaure, ou en dessous les mosasaures. Alors attention, ces reptiles marins n'ont pas tous vécu en même temps. Les ichthyosaures, eux, sont apparus au début du Trias, il y a 250 millions d'années, pour disparaître. Les ichthyosaures ont disparu à la limite cénomanien-turonien, donc il y a à peu près 80-85 millions d'années. Les plésiosaures, eux, sont apparus vers le Trias moyen supérieur et ont disparu à la limite Crétacé-Tertiaire, en même temps que les dinosaures. Et les mosasaures, eux, n'ont vécu qu'à la fin du Crétacé. Mais ces trois groupes de reptiles marins ont conquis tous les océans de la planète au meilleur de leur forme. Les spécialistes qui s'intéressent à la locomotion de ces animaux à partir de leur anatomie ont pu déduire que ces animaux devaient nager particulièrement vite et qu'il est fort probable que les ichthyosaures, par exemple, nageaient aussi vite, peut-être, que les dauphins actuels. Et alors, quand vous avez des animaux qui ont des caractéristiques anatomiques de prédateurs, chasser dans l'eau demande énormément d'énergie pour courir après les proies, les capturer. Quelques fossiles ont permis de déduire à partir des contenus stomacaux que ces animaux se nourrissaient de bivalves, de gastéropodes, de céphalopodes, mais aussi de poissons, voire même d'autres reptiles marins, plus petits qu'eux, dans le même groupe, ou des tortues marines. Leur dentition aussi montre que ce sont des animaux qui n'étaient pas, qui étaient capables donc d'attraper des proies vivantes, et pas des charognards. Au niveau aussi de l'histologie, quand on étudie la structure des os de ces reptiles marins, la croissance osseuse postnatale était très rapide et semblable à celle de nombreux mammifères marins actuels, comme les cétacés ou les dauphins. Comment, avec la méthode isotopique, tester si ces animaux, par exemple, pourraient être de prédateurs, pourquoi n'auraient-ils pas été des animaux à sang chaud, des animaux endothermes, capables de maintenir une température corporelle élevée et surtout indépendamment de la température de l'eau où ils vivaient? Eh bien, on a pu analyser dans les mêmes couches de sédiments marins des dents de reptiles marins qui vivaient en même temps que des poissons. Poissons, eux, animaux à sang froid, ectothermes, dont la température enregistrée dans la composition isotopique est celle de l'eau. Alors, on a pu échantillonner à différentes latitudes sur Terre, et sur l'axe des abscisses, je reporte le delta O18 de ces poissons, dont les compositions varient ici de 18 à 22, ce qui signifie que la température de l'eau, ici, ces animaux vivaient dans une eau qui était à peu près à 32-33 degrés, et ici seulement à 12 degrés. Donc vous avez 20 degrés de différence de la température de l'eau. Si vous reportez sur l'axe des ordonnées la différence de composition entre le reptile marin, c'est-à-dire ici, vous avez, on ne le voit pas très bien, mais ce n'est pas hélas marqué. Alors, en vert, ce sont les plésiosaures, les mosasaures sont en bleu et les ichthyosaures en rouge. Si je reporte la différence de composition sur l'axe des ordonnées, là, j'ai deux cas de figure. deux cas extrêmes. Soit mes reptiles marins ont la même thermophysiologie que les poissons, c'est-à-dire que la température de leur corps suit la température de l'eau. À ce moment-là, toutes mes données devraient s'aligner sur une droite horizontale. Si la température corporelle de ces reptiles marins est indépendante de l'eau où ils vivent, toutes les données doivent s'aligner sur une droite de pente moins 1. Qu'est-ce qu'on observe quand on prend, je ne vais pas rentrer dans les détails, l'ensemble des données? Eh bien, ça s'aligne sur une droite, ici, de pente moins 0,8. Alors, bien sûr, il y a des incertitudes. Elles sont nombreuses. Est-ce que tous les fossiles ont conservé correctement la composition isotopique d'origine? Est-ce que tous mes couples, reptiles, poissons, sont parfaitement synchrones? Quand vous les prélevez dans une couche sédimentaire, vous n'êtes pas certain de ce synchronisme et de sa signification exacte. Mais la réponse au test est assez simple. On peut considérer que ces reptiles marins maintenaient une température corporelle quasi constante, indépendamment de la température de l'eau où ils vivent. Et comme on est capable de trouver l'endroit où les compositions entre les poissons et les reptiles marins sont identiques, eh bien, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu plus sophistiqué. Donc je vous demanderai de me faire confiance, mais on peut en déduire à peu près la température de leur corps, entre 32 et 37 degrés. Ça, par contre, je ne peux pas vous donner plus de précision. Mais sachez que la température corporelle de la plupart des mammifères marins actuels se trouve dans la même fourchette. Je ne sais pas où j'en suis du temps. C'est bon ? Voilà, donc pour conclure, c'est la mémoire isotopique des fossiles. On a encore un long chemin à parcourir avant d'affiner nos méthodes, les outils, pour reconstituer les milieux de vie, le climat. Mais également, c'est une méthode qui nous permet d'avoir des idées aussi sur l'écologie, en caractérisant la température ou la composition de l'eau où vivent ces animaux, mais aussi des thermophysiologies passées. Et des études similaires ont montré, par exemple, que les dinosaures, qu'ils soient carnivores ou herbivores, étaient fort probablement endothermes, c'est-à-dire des animaux à sang chaud. Donc imaginez, le Mésozoïque, c'était une période de l'histoire de la Terre où de grands vertébrés avaient un métabolisme très performant. Et pour avoir un métabolisme très performant, c'est aussi l'acquisition à des ressources énergétiques importantes, car pour maintenir une température corporelle élevée, eh bien, il faut une nourriture riche en énergie, variée. Donc ce monde du Mésozoïque était probablement un monde beaucoup plus moderne que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore peu de temps. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.